Dire à quelqu'un ses quatre vérités. Vous connaissez cette expression ? Il paraît qu'elle date du XVIe siècle. Avant, on disait seulement ses vérités. Elles sont devenues quatre, on ne sait pas pourquoi, au XVIe siècle. Probablement à cause d'autres expressions, pour dire qu'on n'y va pas par quatre chemins, peu importe. Dire à quelqu'un ses quatre vérités, c'est une tentation. C'est une tentation et nous ne sommes pas égaux devant les tentations. Certains savent qu'ils y sont beaucoup plus vulnérables. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on est tenté, se poser la question de savoir quel est l'intérêt. Quel est l'intérêt de dire à une personne ses quatre vérités, c'est-à-dire ce qu'on pense d'elle, ce qu'on imagine que les autres pensent d'elle, quand c'est très désagréable et qu'on est sûr qu'elle ne va pas aimer, mais alors pas du tout. Et surtout quand cette personne, c'est votre patron, qu'elle a du pouvoir sur vous, et que vous feriez mieux quand même de faire profil bas, parce que vous n'avez pas fait le travail que la personne attendait. C'est exactement ce qui se passe avec le troisième serviteur dans la parabole. Et pourtant, ce sont deux accusations graves que ce serviteur lance à la face de son maître. Il l'accuse d'être dur, de dureté, t'es un homme dur, et abusif. Abusif, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Alors il y a tellement de fois dans l'évangile où Jésus reproche à ses interlocuteurs d'être hypocrites, qu'il est bon de s'arrêter un moment aujourd'hui sur le défaut inverse. Défaut ou l'excès inverse. Nos défauts sont soit des manques, soit des excès. L'hypocrisie, c'est un manque de sincérité. L'avarice, la radinerie, c'est un manque de générosité. L'orgueil, c'est un manque d'humilité. À l'inverse, la jalousie, c'est un excès d'attachement, d'appropriation. La colère, c'est un excès d'indignation. Et en même temps, un manque de maîtrise de soi quand elle explose. Et la mesure se trouve toujours entre les deux. Et c'est vrai également en matière de foi, en matière religieuse, il y a un excès de religion. Ça s'appelle la superstition. C'est ça la superstition, c'est un excès de religion. Et puis, il y a un manque autrement plus répandu aujourd'hui. Alors comment ça s'appelle le manque de religion ? On va dire de l'imprévoyance. C'est ce qu'on entendait dimanche dernier dans la parabole précédente. Et à la suite d'ailleurs de mon homélie, qui portait sur la sagesse, il y avait l'une de vous qui était une voix qui m'avait interrogé sur la différence entre la sagesse et le bon sens. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est le bon sens ? Et je lui dis, c'est ce qui manque le plus à Paris. Le bon sens, c'est d'abord une juste relation aux réalités naturelles. Le jour, la nuit, l'homme, la femme, les saisons, peu importe. Ça conduit toujours, question de bon sens, à ne pas se croire trop différent, trop atypique, à savoir prendre exemple ou prendre conseil. C'est exactement ce que ce troisième serviteur n'a pas fait auprès des deux autres. Et puis le bon sens, là il rejoint la sagesse, il veut la paix. Il veut la concorde. Et la première lecture nous donne quelques extraits d'un texte magnifique du livre du Siracide, ce qu'on appelle l'éloge de la femme parfaite. Le texte est beaucoup plus long et il comporte en particulier cette phrase que j'adore qui dit « Elle pense à l'avenir en riant ». C'est beau ça, elle pense à l'avenir en riant. Pas une mauvaise insouciance, une magnifique confiance, pleine d'espérance, penser à l'avenir en riant. Bref, l'hypocrisie c'est un manque de sincérité, parfois d'ailleurs aussi de courage. Mais alors quel est le défaut, l'excès inverse ? C'est quoi le contraire ? Eh bien c'est ce qu'on voit dans cette parabole, c'est la grossièreté. La grossièreté, c'est-à-dire cette façon d'asséner en termes bruts, de façon extrêmement désagréable, ce qui semble vrai à son auteur, pour s'en débarrasser. T'es un homme dur, tu t'abuses. Qu'est-ce que ce serviteur aurait dû dire ? La réalité, j'ai rien fait, désolé. J'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme, quand même l'explication de nombre de comportements, y compris d'ailleurs du manque de religion. Oh, j'ai eu la flemme. Et il aurait pu ajouter, tu savais que j'étais paresseux, tu m'as pourtant fait confiance, c'est moi qui ai manqué de confiance, excuse-moi, pardonne-moi. Et bien sûr que le maître aurait compris, qu'il aurait accepté, qu'il aurait supporté. L'amour supporte tout. Et qu'est-ce qu'il fait le bougre? Il fait porter à son maître le poids de la faute. C'est exactement comme au péché originel. Non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est toi. Non seulement il n'assume pas, mais il accuse, il attaque. C'est ta faute. Quand est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un ces quatre vérités? Est-ce qu'il suffit d'être de bonne foi et même d'être certain que ça va l'aider à changer, à s'améliorer? La raison pour laquelle chaque dimanche au moins, mais si possible tous les jours, nous lisons, nous écoutons la parole de Dieu, l'Évangile, c'est pour suivre le modèle du Christ. Le Christ nous enseigne l'attitude à tenir les uns avec les autres. Il sait, lui, de façon divine et infaillible, ce que la personne a fait, pourquoi elle a agi ainsi. Il sait, pour chacun de nous, nos blessures, notre histoire, nos capacités. Et il sait ce que la personne peut entendre, ce qui peut lui être utile, ce qui peut la faire progresser, et surtout, il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Souvenez-vous de sa rencontre avec Zachée, le voleur, le collecteur d'impôts. Zachée, descends vite, il faut que j'aille demeurer chez toi. Zachée, je t'attends dans ton cœur. Prends le temps de descendre, un temps de prière. Voilà ce qu'il nous dit. Et dans la joie, Zachée faisait la promesse de donner la moitié de sa fortune aux pauvres. La moitié. Waouh. Et il prenait même l'engagement de réparer tous les vols qu'il avait commis, tous ses abus. Et le Christ ne lui disait pas, comme nous sommes souvent assez promptes à le faire, « Tu n'y arriveras pas. » À personne, le Seigneur ne dit cela. Jamais à personne, Dieu ne dit « Tu n'y arriveras pas. » C'est le contraire. Il encourage, il aide, il élève, il relève et il élève. Et voyez comment cette parabole des talents, qui se présente au début comme l'heure de rendre des comptes, est résolument tournée vers l'avenir. Ce n'est pas une parabole de jugement, c'est une promesse du royaume. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Et c'est cette promesse qui est reprise à la fin, à celui qui a. Et on peut entendre, à celui qui a accueilli la confiance qui lui était faite. On donnera encore et il sera dans l'abondance. C'est ça l'abondance, la promesse du royaume. L'abondance, la plénitude de la confiance. Mes amis, il y a quatre, effectivement, il y a quatre vérités. Quatre vérités à tenir, toujours à avoir à l'esprit. Quatre vérités fondamentales de la foi que nous devons toujours reprendre, dans lesquelles nous mettre avant d'entreprendre un travail, une mission difficile ou d'avoir un dialogue tendu. La première vérité, c'est le mystère de la Trinité, c'est-à-dire que Dieu est amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons un seul Père et nous sommes tous frères. Tous frères, et nous devons d'abord, les uns les autres, nous mettre dans cette lumière. Cette lumière d'amour. La deuxième vérité, c'est le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, pour que nous puissions reconnaître sa présence en tout être humain, en toute personne, en chacun de nos frères. La troisième vérité, c'est le mystère de la grâce, qui nous est donné avec nos talents, pour que nous puissions effectivement développer ces talents, pas seulement les nôtres, aider nos frères, les aider à grandir également. C'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous pouvons nous supporter, nous consoler, nous encourager. Enfin, la quatrième vérité, c'est le mystère de la prière. Ce que nous avons à faire, parfois de difficile, ce que nous avons à dire, toujours délicat, doit être porté devant Dieu dans la prière. Seigneur, que dois-je faire ? Seigneur, que dois-je dire à mon frère ?